Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Eh bien bonjour, bonjour à tous, Louis. Hein, bonjour Franck, bonjour Alexandre et bonjour chers auditeurs. Alors j'aurais voulu tourner la page de l'Iran, mais un extrait de notre très charismatique et très compétent ministre des Affaires étrangères m'a donné envie de creuser un peu plus le sujet. Un extrait qui synthétise tout ce qui nous arrive depuis le déclenchement de ce conflit, tant il est pathétique.
French Response a tiré dans le mille et fait bugger la matrice. Ce n'est pas un troll, c'est un outil géopolitique, un outil de recadrage en temps réel. On riposte, on dénonce la manipulation adverse, on recadre. N'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Accrochez vos ceintures, aujourd'hui, French Response arrive sur TikTok. Et ça va envoyer du lourd.
Du lourd. Jean-Noël Barrot se réjouit donc de faire la promotion d'un compte semi-parodique qui propage davantage de gêne et de malaise que de vrais recadrages, comme si son gouvernement allait intimider qui que ce soit. Et cette prétention et cette fuite en avant de ceux qui nous gouvernent me fascineront toujours. Autre cas de figure avec Bruno Le Maire, qui oublie un peu qu'il a été ministre de l'économie pendant 7 ans.
On sait voir ce qui se passe au-delà des frontières. Par exemple, l'Allemagne va baisser provisoirement la taxe sur l'énergie qui est appliquée au carburant. Et c'est pas rien, ça ferait 17 centimes par litre de moins, au moins jusqu'à la fin du mois de juin. Les Français, ils se disent, mais pourquoi on ne fait pas pareil?
Mais l'Allemagne a une marge budgétaire que la France n'a plus.
La faute à qui, si nous ne l'avons plus?
Eh oui, la faute à qui? C'est beau cette façon de se dédouaner. Alors que, bien sûr, Bruno Le Maire a une responsabilité majeure dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Et derrière lui, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, bien évidemment, qui tiraient les ficelles de cette politique de banqueroute. Et la colère monte. Même les journalistes ne peuvent plus faire de duplex tranquillement sans se faire chasser d'une station essence.
Sébastien Lecornu dit hier que la crise va durée, qu'il y a des nouvelles aides dans les tuyaux, et puis ce chantage de Total. Comment réagissent les automobilistes, Benoît?
Alors attendez, on a un petit souci avec la direction de la station.
Ah, qui veut vous déloger peut-être?
Vous savez quoi,
prenez le temps de discuter avec eux, de négocier, si je peux me permettre. Négocier, puis vous nous le dites dans un instant, il n'y a aucun problème. En attendant, Benoît, je vous fais confiance, en attendant.
Oh, voilà, donc cette colère n'est pas le fruit du hasard. Pour comprendre d'où elle vient, tournons-nous vers Florian Philippot, qui vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle et qui détaille l'une des erreurs les plus stratégiques que la France et l'UE ont commises depuis 2022.
Alors aujourd'hui, les Français voient qu'ils payent l'essence extrêmement cher. Bien sûr, il y a le détroit d'Hormuz, il y a tout ce qu'on sait. Bah oui, mais sauf que vous savez qu'on a du pétrole et du gaz russe qui nous tend les bras.
Oui, mais on est fâché avec les Russes.
Ah ouais, mais pourquoi on est fâché avec les Russes?
Bah, on n'a pas été malin.
On n'a pas été malin. Parce qu'on s'est mis à mal avec eux sur notre principal point de vulnérabilité à nous.
Bien sûr.
Donc c'est fou. Et les sanctions, qui les décide? C'est pas la France qui décide les sanctions. C'est l'Union européenne.
Là, on est obligé d'acheter aujourd'hui aux États-Unis.
Mais la France, la France est très largement favorable à ces sanctions.
Tout à fait, parce qu'on a Macron.
Donc il y a une cohérence, oui.
Mais si demain vous avez un pouvoir, un Bardella par exemple.
Bien sûr.
Alors quoi qu'il est pour les sanctions quand même, parce qu'il est tellement soumis au système qu'il est même pour les sanctions. Mais bon, imaginez vous avez un pouvoir qui veut rompre avec les sanctions, mais qui ne sort pas de l'Union européenne. Type la Hongrie, ils n'ont pas pu, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes quand même obligé de les appliquer. Et donc, vous continuez à payer trop cher. Et effectivement, vous avez raison, Monsieur Pro.
On est obligé d'acheter
aux États-Unis. On achète aux Américains du gaz et du pétrole, qui d'ailleurs est produit dans des conditions écologiques épouvantables. Mais là, on n'entend pas les écolos.
La petite musique commence à se faire entendre. Et ceux qui glorifiaient ces sanctions russes vont progressivement se rendre compte que c'était une faute. Au point même que certains généraux, comme Michel Yakovlev, admettent que Poutine est peut-être la seule porte de sortie pour Trump et donc pour l'Europe.
Risque économique, on est à bientôt 120 $ le baril. Risque politique, risque militaire dont vous venez de parler, risque aussi géopolitique, tension grandissante avec Moscou. Il y a un coup de fil ce soir, Poutine-Trump, et Poutine est très opposé à la guerre.
Oui, alors je commence à me dire que c'est Poutine qui va aider Trump à s'en sortir. Parce que quand Trump dit guerre longue, le Trump suivant, le tweet, le message suivant dira le contraire. Donc là, il a dit guerre longue, c'est la dernière. OK. Guerre longue, ça suppose que le Congrès soit d'accord. Théoriquement, à partir du 1er mai, le Congrès devrait se prononcer. Il y a un moment où il faudra qu'il décide de financer ou pas. Et je pense que Poutine lui donnera une porte de sortie. C'est mon hypothèse.
Restons sur cette prise de conscience progressive des généraux qui, face à une propagande massive, commence à hausser le ton sur les plateaux, et Israël n'est pas exempt de ce genre de manipulation, comme le dénonce le général Norlin.
On raconte, excusez-moi, n'importe quoi sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe actuellement. Et malheureusement, je vois que on est assez victime de la propagande officielle et, pardonnez-moi, israélienne. Et, attendez, vous avez un pays qui n'a pas, l'Iran, d'armes nucléaires. Il n'en a pas. Ce pays est attaqué par deux pays nucléaires, dont un qui ne fait pas partie du traité de non-prolifération, qui attaque un pays qui fait partie du traité de non-prolifération. Il faut, c'est comme ça, c'est le fait. Donc, qu'est-ce que vous savez, c'est le désir mimétique, cher à René Girard, c'est-à-dire que si des pays nucléaires se permettent d'attaquer des pays qui sont non-nucléaires, exemple l'Ukraine, Poutine avec l'Ukraine, eh ben, c'est le désir mimétique, ben, évidemment que je veux aussi ma bombe. Évidemment que je veux ma bombe. Et ça sera comme ça.
Alors,
ça,
vous répondez là-dessus, on va avancer, mais juste là-dessus, parce que c'est un point très controversé.
Ben non, c'est le désir de bombe, oui. C'est tout.
Et même les journalistes avertissent. Renaud Girard, reporter de guerre reconnu, prévient que ces guerres déclenchées en Syrie vont déboucher sur un scénario catastrophe.
Israël, c'est très bien, nous allons garantir son existence, mais il ne faut pas qu'Israël soit atteint de démesure, d'hubris. De Gaulle disait il faut qu'Israël sache garder de la modération au Moyen-Orient. Et là, on voit un ancien officier israélien qui parle de décapiter la Turquie. Est-ce que j'ai de l'amitié pour le régime turc ? J'en ai aucune. Je n'ai aucune. Et voilà. Mais c'est l'hubris, c'est la démesure. Mesure, c'est la folie des rois d'Israël de vouloir taper tous les États du Moyen-Orient et ça va très mal finir. En fait, je vous le dis ici.
C'est intéressant
je
parce
vous
qu'en
dis,
fait...
ça va très, cette hubris, cette démesure israélienne va très mal finir pour Israël. Je vous
Moi,
le dis,
ça très intéressant
je vous le dis
parce
solennellement
fait...
ce soir sur ce plateau. Je m'aperçois que les faucons israéliens, dont notre ami Jérusalemi, considèrent que la question palestinienne n'a aucune importance et il considère normal que Israël envisage d'attaquer la Turquie ou d'attaquer le Qatar, qui est des États qui depuis 50 ans n'ont attaqué personne.
Renaud Girard, qui a d'ailleurs eu un échange assez tendu avec un ancien officier du renseignement militaire israélien, tension qui révèle l'agacement face à cette guerre qui s'éternise et fait s'échauffer les esprits.
D'abord, je ne me permettrai pas de répondre au manque de courtoisie de Monsieur Girard, qui me traite de faucon, d'extrémiste et de tous les noms qu'il veut. C'est très discourtois, je vous en prie. Moi, je peux vous dire que je ne me permettrai pas d'aller critiquer la stratégie de la France ou du général de Gaulle, qu'elle me plaise ou non. Et donc, je ne vois pas en quoi vous êtes bien placé pour nous critiquer, nous. Car la dernière fois qu'on a appliqué votre politique, ça a coûté 6 millions de morts à mon peuple. Et donc, mon peuple ne veut plus mourir. Et ne veut plus mourir à cause de l'imbécilité d'autres peuples.
Je ne vois pas pourquoi la France est responsable du génocide.
La France n'est pas responsable du génocide de la Deuxième Guerre mondiale. On est entré en guerre, on a souffert aussi, on a été occupé. Et ça, ça n'est pas très très sympathique de dire qu'on est tous conscients de la Shoah. C'est un drame absolu, mais ce n'est quand même pas les Français qui ont massacré le peuple juif.
Je ne pense pas que c'est ce que vous voulez dire.
S'il vous plaît.
Enfin, je vais laisser la parole à notre ancien collègue, Valentin Schirmer, qui, sur Tocsin, a interrogé le journaliste iranien Siavash Ghazi. On apprend que depuis le déclenchement des hostilités, le climat dans le pays a radicalement changé.
Depuis le début de la guerre, le climat en Iran, le climat a totalement changé. C'est-à-dire qu'on est passé de plusieurs années...
Vous n'êtes pas le premier à nous en parler. Et allez-y, je vous en prie, parce que c'est vraiment très très intéressant d'avoir le retour de quelqu'un sur place. Dites-nous tout.
On a eu plusieurs années de sécheresse très très dure, avec la plupart des barrages à travers le pays qui étaient pratiquement vides, notamment autour de Téhéran. Il y a quatre barrages qui alimentent la ville de Téhéran en eau potable, qui était donc le réservoir était à moins de 10%, et donc ça posait d'énormes problèmes. Depuis le début de la guerre, le climat a totalement changé. C'est-à-dire que il y a des pluies incessantes à travers le pays, beaucoup de barrages, pas encore dans Téhéran, les barrages à Téhéran sont remplis maintenant à 25-30%, mais ailleurs il y a des barrages qui débordent tellement il y a eu de pluies qui sont tombées.
Et voilà l'information la plus inquiétante. Il serait possible que pour cette guerre en Iran, une arme extrêmement rare ait été utilisée, toujours selon Siavosh Ghazi.
L'une des explications, c'est que des radars américains autour de l'Iran ont été détruits et que avec ces radars et le système HAARP, les Américains empêchaient. Donc, alors, je ne sais pas si scientifiquement c'est totalement vrai ou pas. Avec ces systèmes autour de l'Iran, avec des radars autour de l'Iran, empêchaient l'arrivée des nuages. Et donc, même par exemple le lac de Rouen. Est complètement asséché, a maintenant un mètre d'eau, c'était impensable il y a encore un an. On sait que les Américains utilisent ces armes climatiques contre certains pays, et ça a été le cas également contre l'Iran.
Et pour conclure, place au journaliste Vincent Hervouette, qui prévient de l'arrivée d'une crise énergétique majeure et inévitable.
Alors, le patron de l'Aramco, la grande compagnie pétrolière, vous savez, saoudienne, a expliqué précisément que le plus grand choc énergétique qui ait jamais connu l'humanité était désormais certain, même si le détroit rouvrait aujourd'hui. Le plus grand choc énergétique, même si le détroit d'Hormuz rouvrait. Et parallèlement à ça, vous avez un responsable des Nations Unies qui est spécialisé sur cette question, qui a expliqué que la crise humanitaire majeure allait arriver d'ici quelques semaines et qu'elle était désormais inévitable. La hausse des prix du pétrole, les pénuries vont obliger Donald Trump à lâcher prise. Et les Iraniens, c'est le calcul limpide qu'ils font. Il suffit de tenir.
Tenir encore jusqu'à la ruine de l'Europe, gouvernée par des incompétents qui se dédouanent, qui font la promotion de comptes parodiques et qui ont le culot de prétendre être la solution aux problèmes qu'ils ont créés. Et comme vous allez l'évoquer dans quelques minutes, Alexandre, avec Keir Starmer, les élections se suivent et se ressemblent dramatiquement.
Absolument, merci Louis Rigaudière. On a encore une ou deux minutes, je pense, qu'on peut, vous consacrer en attendant Jeremy Stubbs qui a un petit peu de retard.
Moi, je vais saluer Valentin, tiens, qu'on vient d'entendre dans vos sonores, Louis.
Agréable. Petite pensée, voilà. Parce que oui, cet entretien avec Siavosh Ghazi était très intéressant.
Oui, et puis d'une certaine façon aussi, effectivement, vous évoquiez Louis,
cette guerre en Iran qui s'éternise qui provoque une espèce de crise énergétique qu'on n'a pas encore vraiment subie, selon de nombreux spécialistes comme Vincent Hervouette, qui citait d'autres journalistes iraniens présents sur place et qui se rendent compte que même si le détroit d'Hormuz rouvrait aujourd'hui, la catastrophe serait quand même là. Donc on ne se rend pas compte, évidemment. Écoutez, très bien, mais donc c'est un petit peu, en tout cas, très compliqué, même si l'antivirus est là pour masquer une certaine réalité économique et énergétique. Malheureusement, c'est une vague qu'on risque de se prendre en pleine figure.
Oui, et puis surtout que ce qui est... Alors, vous qui suivez beaucoup, effectivement, tous ces médias, d'aucuns prédisent donc une crise qui pourrait arriver à retardement.
C'est ce qui se passe. Non, mais il y a une espèce de tension de plus en plus palpable sur les plateaux, en tout cas entre les généraux, c'est ce que je constate. Et là, pour le coup, j'aime bien, souvent, j'évite, parce que parfois, c'est un peu du brouhaha, mais des confrontations entre des personnalités, parfois des grandes gueules. Mais c'est vrai que ça commence à être de plus en plus facile à trouver, ce genre de scène, parce que cette guerre, vraiment, on commence à la subir vraiment clairement, indirectement, même si on n'est pas directement impliqué.
Et quelque part, ça va donner de la matière aussi à vos chroniques, toutes ces affaires. Ça, c'est quelque chose dont on ne se lasse pas, mais d'une certaine façon, on voit notamment avec le fait que les débats deviennent de plus en plus, on va dire, tendus, on arrive aussi à... on sent quand même la tension de l'élection présidentielle dans un an, forcément, qui arrive.
Ça va être un enjeu majeur, en tout cas, et c'est vrai que ça va être sans doute le sujet numéro un dans les mois qui viennent.
Et j'attends la semaine prochaine que vous nous parliez un petit peu aussi de... cette affaire Maréchal Bagayoko qui met un petit peu de...
J'aurais tellement pu cette semaine. Ouais. Bon, je me suis rabattu sur l'Iran, que voulez-vous.
Très, très bien. Écoutez, à la semaine prochaine, Louis Rigaudière. Merci encore pour votre chronique.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, nous retrouvons Jeremy Stubbs. Jeremy Stubbs qui est présent parmi nous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur et puis également président des conservateurs, des Tories, ici en France. Alors, Jérémy Stubbs, nous avons parlé, je crois c'était il y a deux semaines ou une semaine à peu près, eh bien, de la situation en Angleterre juste avant les élections. Keir Starmer était déjà fragilisé par une forme de scandale d'État, et là, les élections viennent de lui mettre un nouveau coup. C'est une défaite historique pour le Labour.
Oui, oui, tout à fait. Il y a eu des élections au Pays de Galles, pour l'Assemblée dévolue, en Écosse, et puis dans à peu près un tiers des municipalités en Angleterre. Mmh. Et sur tous les plans, c'est une défaite cuisante et historique pour les travaillistes. Mmh. D'où les difficultés accrues de Keir Starmer. Mmh.
Et alors, je vais donner un petit peu quelques chiffres quand même pour que les gens se rendent compte. On va prendre déjà au niveau national. Donc, il y avait des élections locales en Angleterre. C'est un système que vous avez où en réalité, les conseillers municipaux, il y a des élections assez régulièrement justement pour les changer. Ça permet beaucoup de tester un petit peu l'opinion publique aussi dans ces moments-là, même si ce sont des élections locales. Donc le Labour perd environ 1450 sièges qui vont directement au profit du parti Reform UK. À côté de ça, les conservateurs perdent également entre 400 et 500 sièges municipaux. Et puis les Verts et les... et puis les libéraux, eux, gagnent des sièges aussi, donc plus 150 sièges pour les libéraux, plus 300 sièges et quelques pour les verts. D'une certaine façon, rien que sur ces élections locales, il y a un raz-de-marée national.
Oui, 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 et c'est surtout au profit du parti Reform UK de Nigel Farage. Mmh. Donc, on dit que les travaillistes ont un problème à leur gauche avec les Verts, mmh. parti The Greens, mais surtout à leur droite avec Reform, parce que Reform, qui est politiquement le rival des conservateurs, prend énormément de votes aux travaillistes. Surtout, il faut le dire, les classes populaires, les classes ouvrières historiques.
Voilà, d'ailleurs, il y a eu un reportage de France Télévisions, de France 2, qui donc s'est rendu, je crois, à Manchester, qui est effectivement un bastion historique de ces classes populaires blanches, ainsi que même France 2 le décrivait. Et on est arrivé à un phénomène que moi j'ai trouvé tout à fait surprenant, connaissant évidemment moins bien la situation anglaise que vous, c'est que beaucoup, beaucoup d'électeurs du Labour sont directement aller voter pour Reform. C'est-à-dire que d'habitude, généralement, c'est une forme de glissement qui se fait où les électeurs de gauche vont voter pour les centristes ou pour la droite, et les électeurs de droite vont voter, eux, pour la droite nationale. Là, pour le coup, on a directement des électeurs de gauche qui vont voter pour Reform.
Oui, oui, tout à fait. Et
pourquoi
il faut dire que Reform est le plus fort dans le nord-ouest et un peu dans le nord-est, là où il y a le plus de votes pour le Brexit.
Oui.
Donc, ce n'est pas un hasard. Et c'est là que Boris Johnson, pour les conservateurs, avait gagné gros en 2019. Alors, tous ces électeurs se sont tournés vers Reform. Et il est clair que, même s'il y a de graves problèmes économiques, ils ne se tournent pas nécessairement vers Reform pour des questions économiques. Mmh. Mais parce que Reform a promis de s'occuper des problèmes d'immigration et surtout immigration illégale, et en quelque sorte de flatter ou au moins de mettre en valeur l'identité nationale. Il y a eu ce mouvement des drapeaux anglais, qui est un mouvement local. Les gens suspendent des drapeaux anglais, c'est juste la croix rouge sur fond blanc. Mmh. Dans les municipalités travaillistes, la municipalité essaie de les enlever.
Oui.
Donc, si vous voulez, il y a comme une sorte d'agression envers l'identité anglaise et plus largement britannique qui est ressentie comme une sorte de, comment dirais-je, une mise en marge de l'identité britannique. Donc là, on a une sorte de conflit idéologique.
Parce que, pour le coup, quelque chose qui est effectivement très nouveau, je trouve, dans cette configuration. Peut-être que vous me donnerez tort, mais du sentiment que je pourrais en avoir, c'est que les Anglais sont pas un peuple identitaire fondamentalement. Les Anglais sont effectivement un peuple qui, pour le coup, est évidemment anglo-saxon, qui est plus mercantile, qui est aussi sans doute cet aspect anglican qui joue beaucoup là-dedans, où on voit que, par exemple, les vieilles nations catholiques, elles, pour le coup, ont un aspect identitaire beaucoup plus fort, beaucoup plus marqué. En Angleterre, comme aux États-Unis d'ailleurs, ou au Canada, la thématique identitaire est quand même très faible à l'origine. L'Angleterre s'est très longtemps vue, dans la période récente, comme un empire mondial qui, effectivement, était présent en Inde, en Afrique, enfin à travers les sept continents, pardon. D'une certaine façon, comment expliquer cette nouveauté identitaire ici en Angleterre ?
Et vous avez parfaitement raison. Et la raison, c'est que les gens ont été poussés au bout. Mmh. C'est tout simplement ça. Et on sait que la situation est assez grave en France. Si vous imaginez une situation où, mettons que c'est 10% pire, eh bien, voilà l'Angleterre et voilà le Royaume-Uni. Donc, Starmer avait promis de s'occuper du problème de l'immigration. Il n'a pas pu le faire. Il n'a pas eu plus de succès que les conservateurs qui l'ont précédé. Donc,
alors qu'il a fait un virage, il y a un an et demi, il a quand même eu un virage anti-immigration qui a été très surprenant. C'est-à-dire qu'il a dit d'un coup, oui, on va se mettre à fermer les frontières. Ça fait une pression à la baisse sur les salaires. Je vais remettre en place justement cette idée d'externaliser un petit peu l'immigration dans d'autres pays. En réalité, on s'est dit, ça y est, la gauche anglaise devient anti-immigration.
Mais en fait, il a compris dès le début que c'était un problème, qu'on ne pouvait pas gouverner au Royaume-Uni si on ne maîtrisait pas les frontières. Ça, ouais. Il a compris. Il n'a pas compris la difficulté de la question. Il a rejeté la solution des conservateurs qui consistait à envoyer un certain nombre de personnes au Rwanda. Il a dit « Oh, c'est inhumain ». Et il a dit « Nous allons démanteler tout le réseau des trafiquants ». Il n'a pas pu le faire. Donc, il a dû trouver une solution ou essayer une solution plus sévère et encore plus sévère et encore plus sévère. Donc, tout ça ne plaît pas à sa gauche. En même temps, il n'arrive pas à plaire à la droite.
Oui.
Donc, il est cuit, en quelque sorte.
Oui. Et alors, avant de revenir sur la personnalité de Keir Starmer en lui-même, on va expliquer un petit peu l'ampleur de la défaite aussi de la gauche, mais également en Écosse et au Pays de Galles. Donc, en Écosse, le SNP, donc le parti indépendantiste écossais, donc nationaliste de gauche, lui perd quelques sièges, 6 sièges. Le Labour, lui, perd 5 sièges. Et puis, les conservateurs, eux, alors, en Écosse, c'est là que c'est le plus difficile pour eux, en perdent 19. Tout ça au profit notamment des Verts qui prennent 7 sièges et du parti Reform UK qui arrive avec 17 sièges au Parlement écossais. Au Pays de Galles, scénario assez similaire, dans le sens où ce qui se passe, c'est que le Plaid Cymru...
Plaid Cymru.
Cymru, pardon, voilà. Mais merci, je lisais de manière littérale, désolé, mais Plaid Cymru, c'est les noms gallois, désolé. Mes ancêtres celtes ne doivent pas être très fiers de moi. Mais lui arrive en première position avec 43 sièges tout de même et Reform UK 37 sièges. Labour est en déroute totale, n'arrive plus qu'à 9 sièges et les conservateurs 7. Donc sur justement sur ces élections au Pays de Galles et en Écosse, donc ça c'est dans les parlements nationaux, ce qu'on observe c'est effectivement que un parti qui est plutôt nationaliste britannique, qui est Reform UK, lui va réussir à faire une unioniste, hein, c'est comme ça que vous dites. Un parti unioniste réussit une percée impressionnante sans que ça fragilise trop non plus les partis indépendantistes.
Absolument, l'analyse est parfaitement juste. Et dans les deux cas, ce qui est impressionnant, c'est la manière dont Reform a supplanté les travaillistes au Pays de Galles, où les travaillistes étaient normalement les maîtres de la situation depuis le début, depuis la création de cette Assemblée nationale. Là, ils sont en troisième position et Reform est devenu l'opposition au Pays de Galles. Et c'est, comme vous l'avez si bien dit, un parti unioniste. En Écosse, Reform a aujourd'hui autant de sièges que les travaillistes. Mmh. Donc, les deux sont en rivalité pour constituer l'opposition. Donc, partout, le message, tout simplement, c'est Reform. Reform a le vent en poupe. Mmh. Ce qui va changer désormais, c'est que Reform va devoir participer au gouvernement, à la gestion du pays, oui. Et ça va être un test pour ces élus.
Alors avant d'en arriver oui. à ce point, question évidemment, c'est que on sait que depuis le Brexit, les sentiments indépendantistes nationaux sont aussi en hausse. Donc en Écosse, en réalité, selon les estimations dans les sondages, maintenant ils seraient plutôt favorables à l'indépendance en cas de référendum qui n'a pas lieu. En revanche, ce qui est surprenant aussi, c'est ce qui se passe au pays de Galles, où le pays de Galles a toujours été un pays, enfin un pays, non, on va dire, comment vous appelez ça, on va dire un État.
Un pays.
Oui, un pays, oui, voilà, oui, qui est sous domination anglaise depuis 1000 ans maintenant, qui en réalité a toujours eu un petit parti indépendantiste, mais qui n'a jamais eu tant d'importance que ça. Désormais, avec Plaid Cymru, qu'est-ce que ça peut changer?
Eh bien, bien sûr, il y a toujours cette revendication de l'indépendance, mais au Pays de Galles, encore plus qu'en Écosse, on sait que ça va être difficile. Non seulement parce que Westminster, c'est-à-dire Londres, qui est le maître de la situation, ne va pas dire oui.
Oui.
Et puis, on sait que sur le plan économique, ça va être extrêmement, extrêmement difficile. Mais dans ces deux cas, il y a quand même une question identitaire. Alors, la revendication de l'indépendance, c'est une manière d'affirmer l'identité culturelle.
Ouais.
Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. En même temps, si on regarde la gestion de l'Écosse par les nationalistes, personne presque ne peut dire que c'était heureux. Au Pays de Galles, où les travaillistes dominaient, là aussi la gestion n'était pas terrible. Donc il y a des raisons locales pour ça. Donc là aussi, Plaid Cymru, qui est au pouvoir pour la première fois, c'est le test.
Oui.
C'est le test.
Et alors, qu'est-ce qui peut se passer justement? Parce que, est-ce que déjà, selon vous, cette hausse au Pays de Galles des indépendantistes, c'est aussi une autre forme de traduction d'un sentiment identitaire? Ou alors, est-ce que justement, c'est plus une alternative politique locale?
C'est exactement un mélange des deux. C'est-à-dire, il y a toujours une revendication identitaire. Mais sur ce plan-là, les Gallois sont assez bien servis parce qu'ils ont, on vient d'en faire le test, ils ont leur propre langue. Ils ont beaucoup d'institutions culturelles qui sont tout à fait indépendantes, leurs propres médias en gallois. En même temps...
Les Gallois parlent gallois, pour la plupart ?
Oui. Les vrais Gallois parlent gallois, mais on peut facilement visiter le Pays de Galles
oui.
sans être obligé de communiquer avec eux. Mais si on arrive à dire bonjour, ça leur plaît beaucoup.
Oui, d'accord.
J'imagine comme aux Bretons, d'ailleurs. Mais en fait... si vous voulez, il y a une question là aussi, à la fois économique et une question de service de santé. La gestion du service de santé par les travaillistes au Pays de Galles a été particulièrement mauvaise. Donc, les Gallois se disent, mais bon, on va essayer les indépendantistes. Peut-être qu'ils sont meilleurs gestionnaires après ouais. tout. Donc, il y a cet angle-là qui se mêle à la question de l'identité.
Et alors, évidemment, bon, la question qui est un petit peu la question centrale de cet entretien de Jeremy Stubbs, est-ce que Keir Starmer va partir?
Ah, c'est il y a ce qu'on appelle en mathématiques une ligne asymptote, c'est une courbe qui se rapproche de l'axe, mais sans jamais toucher, jusqu'à l'infini. Alors, chaque jour, on a de nouvelles preuves de l'incompétence et même du manque de leadership de Keir Starmer, mais il ne démissionne jamais. Le problème aujourd'hui, c'est que, bon, je crois que la plupart des gens pensent qu'il devrait partir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour le remplacer? Le premier remplacement, c'est justement le maire de Manchester, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui...
lui-même a subi une défaite, donc aussi, enfin en tout cas, qui a vu beaucoup de conseillers réforme arriver dans sa municipalité.
Oui. Mais il est toujours en position. Le problème, c'est qu'il faut être un député parlementaire. Il ne l'est pas.
Ouais.
Et Starmer a tout fait pour qu'on ne donne pas une circonscription à cet homme, Andy Burnham. Donc lui, il n'est pas en position pour prendre la place de Starmer. Ensuite, il y a son ancienne adjointe, Angela Rayner, qui est aussi de Manchester. Donc il y a une sorte de bande mancunienne, comme on dit. Et elle... elle a pas mal de notoriété, d'autorité, mais elle fait l'objet d'une enquête policière pour la manière dont elle aurait payé ou ne pas payé sa taxe d'habitation.
Oui, d'accord.
Donc, ce sera un peu difficile pour
et
elle.
Et alors, la question, c'est aussi, évidemment, est-ce que Keir Starmer, après ses élections, est fragilisé en interne au sein du Labour ? Parce que, pour le coup, évidemment, qu'on se doute que la gauche n'a pas envie de porter la responsabilité en soi, mais de la faire porter à Keir Starmer. Donc, est-ce qu'il pourrait subir une pression de la part des parlementaires de gauche qui sont ultra-dominants, justement, actuellement, au Royaume-Uni, pour le faire démissionner ?
Il n'y a pas de... pour le moment, il n'y a pas de comment dirais-je, de pression idéologique, dans la mesure où il y a ceux qui disent « on n'a pas été assez à gauche », mais en même temps, les gens se rendent compte que s'ils avaient été plus à gauche, économiquement, ça aurait été pire. Donc, la pression vient un peu de toutes les directions. Et l'homme qui est le mieux placé, c'est le ministre de la Santé qui s'appelle Wes Streeting. Il y a une réunion entre lui et Starmer ce matin.
D'accord.
Donc tout le monde attend de grandes nouvelles. En même temps, pour revenir à votre question, Streeting est placé surtout sur la droite du parti et n'aurait pas le soutien de la gauche ou de l'extrême gauche. Donc lui n'est en position de prendre la place de Starmer. Donc, Starmer, c'est une sorte de coquille vide qui est assise sur le trône et il n'y a personne d'autre.
Et qui agrège un petit peu tous les courants du parti malgré son incompétence.
Oui, c'est-à-dire que ceux qui pensent qu'il devrait rester là parce que ce serait catastrophique pour le parti d'avoir de nouvelles élections pour un leader... sont des deux côtés, en quelque sorte, du spectre politique. Et on peut dire qu'il a au moins une qualité, Starmer, c'est de ne pas renoncer. Il n'a pas beaucoup de conscience de soi pour réaliser combien il est, je ne dirais pas détesté, mais combien il inspire de l'antipathie. Chez tout le monde.
Ouais. Alors évidemment aussi, cette élection, c'est une grande victoire donc, pour Nigel Farage. Nigel Farage qui, pour le coup, lui, ça y est, semble avoir fait ce que Marine Le Pen a fait en 2022, c'est-à-dire s'installer comme la principale opposition au pouvoir travailliste.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est important là, c'est que jusqu'à présent, on n'avait que des sondages nationaux qui mettaient Farage largement en tête. Là, on a la preuve que lorsqu'il y a des élections, Reform agit. Et là, c'est une sorte de consécration de Reform comme étant le parti principal d'opposition et sans doute, pour le moment, le meilleur espoir de ceux qui veulent voir Labour remplacé par un parti plus à droite.
Et alors justement, tous ces 1500 conseillers municipaux, tous ces parlementaires en Écosse ou alors au Pays de Galles, ça veut dire aussi que ça y est, Reform va être un parti qui aura des cadres, qui aura, parce qu'ils ont déjà quelques parlementaires, mais qui aura une présence réelle au niveau national. Est-ce qu'il y a des endroits où ils vont avoir vraiment des responsabilités? Est-ce qu'ils ont finalement les cadres justement pour pouvoir s'installer de manière crédible en tant qu'opposition?
Mais dans les assemblées nationales en Écosse ou au Pays de Galles, ils sont dans l'opposition. Donc, ils sont là pour critiquer. Et à mon avis, ils vont se donner libre carrière pour le faire. Et c'est important. C'est important parce que ça fait partie de la démocratie. En Angleterre, au niveau municipal, ils vont devoir gouverner localement. Et là, ça va être le vrai test parce qu'il s'agira pour eux de montrer qu'une fois qu'il y a un gouvernement local de réforme, ce n'est pas comme les autres. Mmh. C'est vraiment différent.
Mais alors, sur quoi ils peuvent se démarquer ? Parce que, évidemment, c'est un petit peu comme en France avec les municipales, c'est-à-dire qu'on peut se démarquer par une bonne gestion de la ville, mais d'un autre côté, sur les deux sujets principaux de Reform, donc, qui sont un peu comme en France, immigration et pouvoir d'achat, d'une certaine façon, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose.
Non. Alors, la première chose qu'ils ont à faire, et là, c'est le vrai test. C'est une sorte d'opération, comme on dit aux États-Unis, comme on disait, Doge.
Oui.
C'est-à-dire couper tout ce qui semble être un budget un peu pour les besoins de l'idéologie. Tout ce qui peut être considéré comme une action du gouvernement local pour soutenir des associations, pour donner de l'argent à des groupes qui veulent pratiquer leur religion ou pour etc etc.
Oui, ils peuvent lutter contre le communautarisme aussi, oui, c'est ça.
Voilà. Là, la grande question, c'est est-ce que ces économies-là feraient une grande différence ? À voir. Ensuite, il y a la question surtout de la gestion des immigrés clandestins dans telle ou telle municipalité.
Ouais.
Et là, ils vont se battre jusqu'à la mort pour refuser que des centres de rétention ou de détention soient situés chez eux.
Alors justement, il nous reste 3 minutes, donc j'ai 2 questions, il va falloir qu'on soit efficace. Mais
oui.
D'abord, première question, il y a Zia Youssouf, donc un des parlementaires justement de Reform UK, qui a une proposition tout à fait originale.
Voilà, j'y pensais tout à l'heure, exactement, c'est-à-dire que c'est un peu une sorte de gag, mais
oui.
il a annoncé que dans les circonscriptions ou dans les municipalités où on vote pour les Verts, eh bien, Reform, si jamais ils sont au gouvernement national, va situer les centres de détention ou de rétention dans leur circonscription. C'est-à-dire, si vous êtes pro-migrant, eh bien, vous allez devoir les accueillir vous-même.
Ouais.
C'est un coup de publicité, mais c'est pas mal vu, il faut le dire.
Oui, c'est vrai que pour le coup, je regardais ça l'autre jour, il a fait un post sur X, donc du coup là-dessus, 4 millions de vues, voilà. Effectivement, très apprécié. Même Tommy Robinson, qui est très critique de Reform, a soutenu cette idée. Alors, autre question, là il nous reste 2 minutes, Jeremy Stubbs. Kemi Badenoch, vous nous disiez récemment que effectivement c'était plutôt une bonne leader pour le parti conservateur. Cela étant, le parti conservateur subit lui aussi une énorme déroute durant ces élections. Qu'est-ce qui peut arriver justement pour les conservateurs ?
Il y a eu un petit signe de renouveau au cours de ces élections, c'est-à-dire que les conservateurs ont moins perdu que prévu, un peu moins.
Mmh.
Ils ont même regagné quelques municipalités phares, comme celle de Westminster même, qu'ils avaient perdu. Et sa cote personnelle, ça commence à monter. Et puis le contraste avec Starmer est tel que ça ne peut que lui servir. Donc, il ne faut pas dire que les conservateurs sont finis. On verra. Le cadavre est toujours vivant. On verra ce qui se passera après.
Oui. Et puis, d'autant, en fait, finalement, on pourrait arriver à une situation un petit peu à la française où on voit que même les Républicains se maintiennent d'une façon ou d'une autre un petit peu dans tout le pays sans que, effectivement, le parti ait une vraie capacité à emporter des élections au niveau national. Jeremy Stubb, malheureusement, on va devoir finir. On n'a même pas eu le temps de parler des Verts et de leur joyeuse folie. Oui. Mais effectivement, il y aurait beaucoup à dire. Mais écoutez, on vous réinvitera, je pense, dans peu de temps pour effectivement évoquer également leur sujet. Et puis peut-être aussi à la faveur d'un changement au sein du gouvernement qui pourrait éventuellement arriver. Qui sait, mais peut-être qu'on vous reverra très bientôt alors, Jérémy Stubbs.
Avec un grand plaisir.
Merci beaucoup, Jérémy.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Voilà, chers auditeurs, je rappelle, effectivement, on va pas mal en parler ces prochains jours, mais que nous diffusons désormais des podcasts sur toutes les plateformes, podcasts gratuits qui vous permettront d'écouter Radio Courtoisie, d'écouter Ligne Droite où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, sur toutes les applications disponibles, donc ne manquez pas ça.
Et surtout, nous arrêtons le conditionnement aux dons pour l'accès à ces archives de Radio Courtoisie, ça c'est précieux, mais en revanche, on vous demande un petit retour, faites un don à la radio sur soutenir.rc.fr, je vous rends la parole.
Voilà, ou encore une fois, envoyez vos chèques au 61 Boulevard Murat, 75016 Paris, vous pouvez également faire des dons dans le chat, on en a eu quelques-uns la semaine dernière, ça nous permet de vous remercier en direct et c'est toujours un grand plaisir, donc voilà, on fait un effort vers vous, on attend que vous en fassiez de même. Tout de suite, donc on reçoit Éric Doutrebente pour sa chronique. Alors Éric Doutrebente, je rappelle que vous êtes fondateur de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante gérant des clients privés. En ce temps de chien lié au sein de glace, vous vouliez nous bichonner en évoquant un leader de la santé et de la nutrition animale, Virbac. Alors quelles en sont les raisons ?
Bonjour, bonjour à tous. Donc, c'est un marché de 1 milliard d'animaux de compagnie dans le monde et c'est un marché de 30 milliards d'animaux de rente, c'est-à-dire que les vaches et les moutons, dont les vaches et les moutons, excusez-moi. Donc c'est un marché très important. La société, c'est un laboratoire pharmaceutique français qui est indépendant, qui est dédié à la santé animale et à la nutrition, qui a été créé en 1986 par la famille Dick. Cette dernière contrôle la société avec 50,1% du capital et le chiffre d'affaires 2025 s'élève à peu près à 1,5 milliard. La société compte 6400 salariés, dont 1400 en France, et le groupe est présent dans 100 pays. On va voir plus tard que le groupe est un acteur important dans le marché de la santé animale et de la nutrition animale. Alors, il y a deux segments, il y a 60% du chiffre d'affaires sur les animaux de compagnie, donc c'est 1 milliard d'animaux de compagnie dans le monde, 40% sur les animaux de rente. Les produits couvrent les antiparasitaires, les antibiotiques, les vaccins, les produits de nutrition, les compléments alimentaires. Il y a aussi les produits du groupe qui sont principalement destinés aux chiens, aux chats, aux chevaux, mais aussi aux animaux d'élevage, notamment les bovins, les ovins, le porc et la volaille. Évidemment, Virbac vend ses produits partout dans le monde avec comme trois principaux marchés l'Europe, c'est à peu près 600 millions de chiffre d'affaires, l'Amérique latine avec 220 millions de chiffre d'affaires, les États-Unis 200 millions, mais ils sont aussi présents en Asie. Le groupe a publié récemment des résultats annuels 2025 de très bonne facture. On a vu une bonne dynamique avec une croissance organique de 7,9%. 1,5 milliard de chiffre d'affaires, une marge opérationnelle d'environ 16%, légèrement au-dessus des attentes. Pour 2026, la direction confirme ses ambitions avec une croissance attendue entre 5,5 et 7,5% et donc mieux que son marché comme d'habitude avec une projection de rentabilité et une marge qui devrait aller vers 17%. Donc le groupe a présenté ses objectifs 2030 et a convaincu le marché. Alors c'est un marché très résilient, en croissance structurelle de 4 à 5% par an, assez indépendant du contexte macroéconomique ou géopolitique, car les animaux sont maîtres dans ce monde. La Virbac est le septième acteur mondial du secteur, avec une part environ du marché de 3%. Il y a évidemment une bonne capacité d'innovation. 8% des revenus sont investis dans la R&D, avec un pipeline de projets en interne, des accords de licence, une capacité financière pour faire de la croissance externe. Donc cela va nourrir la croissance future. Il y a une valorisation qui est raisonnable, avec une décote par rapport à ses comparables. Il y a des comparables cotés et d'autres qui sont non cotés. Il y a eu plusieurs transactions dans le secteur, donc ça vous permet de voir si le Virbac est décoté ou pas décoté. évidemment une structure financière saine. Ils investissent de manière importante, je l'ai dit, et depuis longtemps. Et ils génèrent évidemment des bons flux de trésorerie. C'est grâce à cela qu'ils gagnent des parts de marché. Et puis un événement, c'est le nouveau directeur général, Paul Martingale. Alors lui, il vient du secteur de la santé humaine. Il a été chez Sanofi et chez Novartis. Il peut y apporter son savoir-faire en matière d'intégration et d'excellence industrielle. Et c'est donc ce que Virbac a peut-être besoin. Notez que les marges dans le secteur de la santé humaine, sont bien plus élevées que dans la santé animale.
Alors, pouvez-vous nous décrire en quelques mots, Éric Doutremont, l'évolution boursière du titre Virbac et de ses concurrents cotés ?
Alors, vous avez une évolution sur longue période qui est évidemment satisfaisante, avec un espèce de coup de chapeau au moment du Covid, puisqu'évidemment, le Covid, les gens sont restés chez eux, ils ont continué de dépenser de l'argent pour leurs animaux, surtout les gens qui étaient seuls et qui étaient très isolés par le Covid. Mmh. Donc, c'est un titre qui n'est pas cher compte tenu de ses atouts. Vous voyez là que la variation est loin d'être donc est très sympathique sur longue période. Évidemment, il y a la croissance externe qui a été faite. Par exemple, Mars a racheté SK et le fonds EKT a racheté Decra en 2023. Et ça fait des valorisations nettement plus élevées que le cours de Virbac. Donc sur le plan boursier, il y a peu d'acteurs qui sont cotés en bourse. Des acteurs comme Zoetis, où évidemment la valorisation est stratosphérique par rapport à nos petits amis de Virbac. Et puis, il y a aussi Elanco qui est coté. Et puis, un nettement plus petit qui est Vetoquinol. Alors, sur le plan boursier, évidemment, on va continuer d'avoir une croissance. C'est un titre de qualité, une valeur moyenne et qui est présente dans deux fonds chez Tiepolo, dans le fonds Tiepolo PME, dans le Tiepolo Valeur, et un site très, très suivi. Il ne faut pas oublier que 60% des maladies humaines viennent des animaux. Et 75% des maladies émergentes viennent des animaux. Donc il y a encore de beaux jours devant le secteur.
Merci beaucoup Éric Doutremont d'avoir été avec nous ce matin et on vous dit à la semaine prochaine ici sur Ligne Droite.
Bonne ascension.
Ligne Droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et pour cette revue de presse, j'ai envie de dire de manière tout à fait classique, sans surprise et toujours avec bonheur, nous retrouvons Gilles qui est à distance pour des problèmes de balcon, mais je ne m'étendrai pas tellement sur vos affaires personnelles, Gilles Brochard. Alors, ce soir à Cannes est diffusé le film L'Abandon de Vincent Garanque qui sort en même temps dans les salles.
Oui, le Parisien en fait sa une et consacre 3 pages à l'événement. Alors, tout est vrai, assure Michael Paty, l'une des 2 sœurs de l'enseignant, qui a été consultante sur le tournage du film, inspiré du livre du journaliste Stéphane Simon, intitulé « Les derniers jours de Samuel Paty ». Et comme l'écrit Nicolas Charbonneau dans son éditorial, ce qui est terrible et bouleversant dans l'assassinat de Samuel Paty, c'est qu'il était prévisible. Mmh. Tout dans ces 11 jours qui précèdent et qui sont retracés dans ce film montre que sa mort aurait pu être évitée si le professeur n'avait pas été abandonné, livré aux mensonges et à la rumeur, au déchaînement des réseaux sociaux et à tous ceux qui ont attisé la haine jusqu'à ce que cette folie collective conduise un islamiste radical à l'égorger et le décapiter à la sortie de son lycée. Et Nicolas Charbonneau ajoute, on savait que la France était devenue une cible, que sa culture, son éducation, sa laïcité, son égalité, ses lumières qui brillent étaient insupportables pour les islamistes. Et Florence Vieron, dans Le Figaro, écrit qu'il n'a pas eu peur et mal en entendant cette histoire. Samuel Paty, un nom tristement connu, qui est devenu synonyme d'horreur. En 1h40, le film déroule la complexité de 11 jours qui ont vu une machine infernale s'emballer. Et puis elle ajoute, l'intention est claire, décrire des faits, se focaliser sur le réel, ne pas dénoncer. La fiction, plutôt que le documentaire, permet de donner chair à Samuel Paty. Et dans ce rôle difficile d'ailleurs, joué par Antoine Reinhardt, il est Samuel Paty. Alors, je ne sais pas, Alexandre, si hier, vous avez regardé comme moi sur CNews l'excellent documentaire consacré à ces 11 jours qui ont précédé l'assassinat islamiste contre Samuel Paty et le jour de l'assassinat lui-même. Mais il faisait écho justement à la diffusion ce soir du film à Cannes. Et à propos justement de... Il est clair, en tout cas, une descente aux enfers avec comme personnage central la sœur de Samuel Paty, Michael, extraordinaire dans la maîtrise du récit. On la voit même, vous savez que c'est une infirmière, on la voit même sur son lieu de travail. Alors sinon, écrit Olivier Dalcroix, à propos de l'acteur qui incarne Samuel Paty, Antoine Reinhart, écrit toujours dans le Figaro, quoi qu'on dise de lui, il appartient à cette race d'acteurs qui n'impose pas avec présence, mais la font naître. L'acteur possède cette capacité rare de rendre sensible sans pathos la vulnérabilité qu'il joue, et ce n'est qu'un début.
Le Figaro revient sur la boisserie qui en ce moment est sous les feux de l'actualité puisque les petits-fils du général de Gaulle envisagent de la vendre.
Oui, alors quand les De Gaulle découvrent le lieu en 1934, la maison n'a pas d'eau courante, les lampes à pétrole éclairent encore la plupart des pièces. Le pays est rude, le village isolé, écrit Guillaume Perrault. Le général a 43 ans, il est donc séduit par cette demeure digne, le parc de 2,5 hectares qui l'entoure, les forêts voisines, et l'histoire de la région l'inspire. Alors voilà 2 ans à l'époque que son épouse et lui cherchent à quitter leur domicile parisien pour s'installer à la campagne. La raison de ce projet, c'est le désir de s'occuper le mieux possible de leur fille handicapée Anne, née en 1928 et trisomique. Et c'est l'époque où De Gaulle a publié Vers l'armée de métier et il ne cesse de convaincre parlementaires et journalistes de l'importance des blindés dans l'armée française. Il espère aussi être promu à la tête d'une des rares unités de l'armée selon son cœur, le 500e régiment de chars de combat. Donc le couple achète la boisserie et les De Gaulle, Charles, Yvonne et leurs 3 enfants, Philippe, Elisabeth et Anne, s'installent donc au sein de cette maison. On connaît la suite, le départ du général en juin 40 pour Londres, qui rejoint par sa famille. Et puis la boisserie va être occupée par les Allemands, elle va même être pillée. Et des pans de murs sont calcinés. Alors à la Libération, la famille s'y installe à nouveau. Le chef du gouvernement provisoire fait ériger côté est une tour d'angle hexagonale afin d'y installer son bureau au rez-de-chaussée et de bénéficier d'une large vue sur la campagne. Guillaume Perrault décrit la vie quotidienne, l'épouse qui se lève à la première heure des 7h30 pour mettre l'office en route, comme elle dit, puis passe parfois au poulailler pour récolter un œuf. De Gaulle se lève vers 8h, il prend son petit déjeuner dans sa chambre en tête-à-tête avec Yvonne. Et au menu, grand bol de café au lait à la chicorée, tartines de pain beurré et confiture. De ses amis en Angleterre, l'ancien chef de la France Libre garde le dégoût des toasts. Et puis à 10h, il saisit une canne à bout ferré et il écrira en 1959 en avoir fait 15 000 fois le tour. Et vers 10h30, De Gaulle gagne son bureau. Et puis, ajoute Perrault, il existe un lien singulier fait dégâts réciproques entre le général et les habitants du village. Ce dernier n'a jamais fait bâtir de mur entre sa propriété et la demeure de ses voisins. Une famille d'agriculteurs, les Consigny, seul un grillage peut élever les séparts et De Gaulle vient volontiers causer avec l'aïeul de la maison, mutilé de la Grande Guerre, tout en lui allumant une cigarette d'un geste soudain familier. Voilà, vous lirez la suite dans le Figaro.
Ça fait envie, effectivement. Et vous voulez revenir sur votre erreur de calcul hier dans la zone libre en vous appuyant sur une chronique de Frédéric Taddeï.
Oui, en effet, alors je rate rarement la dernière page.
Attendez, on va commencer, pardon.
Oui, il faut rappeler.
Oui, 18 divisé par 3, Gilles.
Oui, voilà, c'est 6. Hein, voilà, c'est bien ça. Alors, c'est vrai qu'à ce point, alors c'est amusant parce que Frédéric Taddeï, qui fait toujours des billets d'humeur assez pertinents en dernière page de Marianne, et dans cette semaine, il titre sa chronique « Maudite erreur de calcul ». Il y a des gens intolérants au lactose, écrit-il, moi c'est aux erreurs de calcul. J'y vois la négation de l'évidence, le début du chaos. Il y a des lois contre la propagation de fausses nouvelles. Pourquoi n'y en a-t-il pas contre les faux calculs ? Imaginez ma réaction le 1er janvier de l'an 2000, quand le monde entier s'est cru au 21e siècle, donc au 3e millénaire. Mais j'avais beau expliquer que les années se terminent par zéro, sont les dernières années du siècle et pas les premières, donc il n'y a pas eu d'année zéro, l'ère chrétienne débutant en l'an 1. Donc le 1er janvier 2001, tout est rentré dans l'ordre, le 21e siècle commençait pour de bon. Un peu plus loin, il rappelle d'ailleurs que Christophe Colomb, comme vous le savez, s'était trompé, confondant les miles arabes avec les miles italiens, beaucoup plus courts. Ayant parcouru 6000 km en direction du soleil couchant, il était certain d'aller en Asie. Même chose pour Mao Tse-tung lors du grand bond en avant en 1958, les chiffres de production ont été gonflés, on a annoncé des récoltes fictives et l'État a fait saisir le grain sur la foi de ses mensonges, créant de toutes pièces la plus grande famine du XXe siècle. Bilan, 20 millions de morts.
Voilà, voilà. Donc vous voyez où ça peut mener, vos erreurs de calcul, Gilles. Faites attention quand même. Hein,
le chaos, c'est le début de la décadence.
Voilà. Eh ben, écoutez, 18 fois 3, maintenant, ouais. vous divisez par 3, pardon, vous retiendrez. Merci, Gilles Brochard.
Alexandre, j'en profite simplement pour vous dire que je vous retrouverai à 16h en direct sur Radio Courtoisie. Avec deux invités exceptionnels, je remplacerai Paul-Marie Couteau dans son émission de 16 à 17h.
Eh bien, vous en avez de la chance et les auditeurs aussi. Sinon, eh bien, à 16h, Gilles.
Zone libre.
Et pour cette zone libre, nous allons commencer par Franck. Franck qui, depuis quelques semaines, eh bien, a quelque chose à nous montrer absolument sous le coude qu'il ne parvient pas à caser. Je dois le confesser. Donc, Franck, on vous écoute.
Oui, oh, bah, écoutez, moi j'avais ma petite information prête et j'attendais le jour où vous seriez embêté. Le voici, ce jour. Est-ce que vous aimez l'humour noir, vous, Alexandre ?
Oui.
Beaucoup ?
Oui.
C'est vrai, c'est vraiment...
On va voir, mais allez-y.
Non, mais voilà. Et Richard, vous appréciez ?
Oui, l'humour noir, très bien, bonne idée.
Eh bien, parfait. Louis, vous, ça vous, vous intéresse ?
Je crois que c'est un des meilleurs humours qui puisse exister, en tout cas en France.
Et Gilles, puisque vous êtes toujours avec nous, vous êtes friand d'humour noir ?
Ah, j'adore ça.
Bon, voilà. Si je vous dis comment les enfants de Tchernobyl comptent-ils jusqu'à 33, par exemple, vous avez la réponse.
Voilà. Bah, sur leur demain, avec un peu de chance.
Oui, c'est ça, c'était avec les doigts, voilà. Alors écoutez, c'est pas pour faire une séquence humoristique, mais c'est pour vous donner une très bonne nouvelle, puisque d'après une étude très scientifique, votre QI est plus élevé que la moyenne si vous riez à ces blagues, selon la science.
Ah, c'est étonnant, ça.
Eh bah, bien, effectivement, on a... Alors, j'ai remarqué qu'il y avait une personne qui avait pari ici, je dirais pas qui.
C'est moi.
Non, c'est vous.
C'est possible. C'est une étude qui a été publiée dans la revue Cognitive Processing, hein, que je lis tous les matins, bien sûr, et reprise par le site Psychologie, qui a exploré ces différents types d'humour et a pu identifier que l'humour noir serait l'humour des intelligences élevées. Donc, bah, écoutez, puisqu'on rigole tous à ces blagues-là, on peut tous considérer qu'on a un QI un petit peu au-dessus de la moyenne.
Ça, c'est clair.
Nous sommes très intelligents. Merci, Franck, de le rappeler.
Et comme vous avez commencé votre intervention en parlant de Tchernobyl, hein, je peux renvoyer nos auditeurs à l'entretien que nous avions accordé, que nous avait accordé Fabien Bouglet pour parler des 40 ans de Tchernobyl et également de la mini-série, sans doute la meilleure mini-série qui n'ait jamais été faite, évidemment, qui s'appelle évidemment Tchernobyl, voilà. Et qui est un pur chef-d'œuvre. Voilà.
Très bien. Et maintenant, on va passer à vous, Richard. Allez-vous expliquer qu'on est très intelligent aussi ?
Non, parce que je crois que tout le monde on s'en rend compte depuis plusieurs années. Et voilà. Et ça ne vaut pas que pour Ligne Droite, c'est pour tout Radio Courtoisie. Non, moi, je vais vous parler des paquets de chips au Japon. Qui vont être imprimés en noir et blanc à cause du blocage du détroit d'Ormuz.
Oh. Ah, c'est... Voilà. L'information est géniale.
Avec l'Ukraine, on n'avait plus de moutarde, maintenant, on a quelque chose de neuf. C'est faute d'encre, parce qu'il y a une pénurie de nafta, donc liée au blocage du détroit d'Ormuz. Le premier fabricant japonais de chips, Calbi, va passer 14 de ses produits en packaging noir et blanc.
Donc un packaging, c'est
un packaging,
l'emballage.
Je lisais bêtement la dépêche qui a été reprise par plusieurs sites du Figaro jusqu'à bluewin.ch.
voilà, c'est top.
C'est la même. Et donc, la première ministre japonaise, Sanae Takaishi, avait précédemment déclaré que Tokyo devrait disposer de suffisamment de produits chimiques dérivés du nafta, même au-delà de cette année, après avoir augmenté les importations en provenance d'autres régions. Mais voilà, il y a une impression de paquet de chips au Japon que le nafta est en rupture.
Et peut-être qu'il y a des leçons politiques à en tirer de ce sujet, je ne sais pas lesquelles, mais peut-être qu'on pourra faire un grand entretien la semaine prochaine à ce sujet.
Alors cela dit, il y a un vrai problème d'engrais pour les paysans français. Voilà, donc le coût de l'engrais explose et là c'est beaucoup moins drôle.
En quelques secondes, Louis Gaudière.
Oui, c'est compliqué.
Non, bon alors j'en ai une si vous voulez.
Allez-y.
Parce que pour le coup, moi c'est une information évidemment qui, comme les informations que je donne généralement en zone libre, sont sans doute les plus importantes de ces matinales.
Hein, là, on est à la hauteur de votre modestie, toujours. Oui.
Voilà, mais ça c'est le diapason. Mais en fait, pour tout vous dire, des cerfs ivres ont été repérés en France. Je crois que c'était dans le département de la Saône-et-Loire où, effectivement, eh bien, on a vu des cerfs ivres qui auraient mangé des fruits fermentés et la police appelle vraiment à la prudence. Voilà, donc faites attention, chers auditeurs, si vous êtes en voiture quand vous nous écoutez, faites attention aux cerfs ivres. C'est vraiment une menace
désormais. Au CRS, l'insécurité, on a dit au CRS, hein, pardon, voilà, ça n'engage que moi.
Non, mais l'insécurité est partout, y compris sur nos routes, y compris à cause des cerfs ivres. Faites attention, laissez-les tranquilles, n'intervenez pas, demande la police.
Zone Libre.
Merci chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous ce matin sur YouTube et sur X. Merci d'avoir écouté tant nos galéjades que ces sujets plus sérieux que nous avons pu aborder. C'est la fin de la semaine, je tiens à le préciser ici sur Ligne Droite, dans le sens où il n'y aura pas d'émission en direct, il y aura des émissions rediffusées qui ont été concoctées par Richard, qui nous a fait un petit cocktail en réalité de tout ce qui s'est fait de mieux ces dernières semaines sur deux thématiques, il me semble. C'était sur
remigration et l'euthanasie.
Voilà, remigration et euthanasie. Donc demain remigration, vendredi euthanasie. C'est des sujets qu'on aura et qu'on va bien traiter sérieusement. Avant juste toute chose, je rappelle, chers auditeurs, avant de vous laisser sur YouTube et sur X, qu'il faut faire des dons.
Il faut faire des dons pour financer Radio Courtoisie, l'aider à développer ses projets comme la mise en route des podcasts. Allez sur podcast.rc.fr pour voir ça. Et pour faire un don et nous encourager, soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Merci.
Voilà, et tout de suite, on écoute Andrei Dirlo, sénateur de Roumanie, qui nous explique la chute du gouvernement pro-Union européenne.
Ligne droite.
Bonjour. Bonjour, merci.
Debout les Français.
Galzin, je vais commencer par dire que...
Attendez, Andrei Dirlo, d'abord, il faut que je vous présente, que je donne un petit peu de contexte, mais merci d'être avec nous ce matin. Alors, je rappelle que vous êtes donc sénateur du parti AOR en Roumanie, et que, eh bien, maintenant, un an après la défaite de Georges Simion, à peu près, ça y est, le gouvernement pro-Union européenne est tombé. C'est un gouvernement, donc, d'un libéral qui s'appelait Ilie Bolojan, je prononce sans doute mal, mais vous me corrigerez. Et voilà, il y avait une alliance qui avait été réalisée entre plusieurs partis différents, notamment les sociaux-démocrates. Et en fait, le gouvernement est tombé donc il y a quelques jours avec 281 voix lors d'une motion de censure. Expliquez-nous un petit peu.
En Roumanie, la courtoisie est presque disparue. Ici, on a la querelle permanente. On a des gens qui ne sont pas du tout des aristocrates. Ils sont des gens qui s'entendent pas du tout. Donc, le problème en Roumanie, c'est qu'il y a beaucoup de partis, il y a 10 partis, et aussi le problème, c'est que tous ces partis ne s'entendent pas entre eux. Donc, c'est difficile de prévoir le gouvernement qu'on va avoir, la formule gouvernementale, parce que personne ne sait quelle est la situation qu'on va avoir ici. Donc, on a les sociaux-démocrates, on a les libéraux, on a mon parti, l'Alliance pour l'Union des Roumains. On a aussi l'Union Sauver la Roumanie, Renew. Les Hongrois, la formation de la minorité hongroise. On a les minorités autres que les Hongrois. On a des petits partis de droite non affiliés. Donc, le Parlement roumain compte en total 465 élus au total. Mmh. Donc, il faut avoir une majorité de 233 élus. Mmh. Il y a plusieurs scénarios qui sont véhiculés en ce moment. D'un côté, on a Ilie Bolojan, l'ex-premier ministre, qui est toujours le président du Parti libéral, le Parti national libéral, et qui ne veut pas du tout faire une coalition avec les social-démocrates. Donc, il dit que jamais il ne va pas faire un gouvernement avec ceux qui l'ont débarqué. Mmh. D'autre côté, il y a un cordon sanitaire que les partis mainstream ont formé autour de mon parti, l'Alliance pour l'Union des Roumains. Ils disent que nous sommes des extrémistes, bien que ce n'est pas le cas, nous ne soyons pas des extrémistes évidemment, mais néanmoins, nous sommes le deuxième parti en Roumanie, nous avons 20% dans le Parlement, et évidemment que Emmanuel Macron, le président de la France, le chancelier de l'Allemagne, M. Merz, Mme Ursula von der Leyen, la Commission européenne, ils ne veulent pas du tout qu'on ait un gouvernement en Roumanie avec l'Alliance de l'Union des Roumains, un parti soi-disant extrémiste de droite. Donc, ils veulent empêcher la Roumanie d'avoir un gouvernement avec nous.
Mmh. Simplement, André Dirlo, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots pourquoi est-ce que le gouvernement d'Ilie Bolodjan est tombé ? Qu'est-ce qui faisait que finalement cette alliance qui avait été réalisée après l'élection de Nico Jordan il y a un an contre Georges Simion, comment ça se fait que justement cette alliance pro-européenne se soit effondrée ?
Ils ont augmenté les taxes, ils ont pris l'argent, ils ont appauvri les Roumains. Ils ont pris des mesures complètement non populaires, antipopulaires. Ils n'ont jamais touché les grandes compagnies, les corporations multinationales. Ils ont donné des privilèges fiscaux à ces corporations, mais ils ont coupé les pensions, pour ceux qui sont à la retraite. Ils ont coupé les salaires, ils ont coupé l'argent pour ceux qui ont un handicap. Donc, ils ont pris des mesures économiquement néfastes. Mmh. Nous avons une inflation de 9%, mmh. une inflation énorme. Donc, les gens ne sont pas du tout heureux avec ces mesures économiques qui les ont appauvris. En plus, ils ont voulu vendre, mettre sur la bourse des compagnies d'État, les compagnies de l'État comme hydroélectrique, des compagnies de l'énergie, les compagnies de gaz, de pétrole, d'autres compagnies roumaines, qui sont, disons, les dernières compagnies qui ont resté en propriété de l'État roumain. Et c'est une mesure antinationale que nous considérons que c'est une trahison.
Et André Dirlo, il nous reste 5 minutes pour cet entretien. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu justement ce que Georges Simion lui propose plutôt dans cette situation ? D'abord en termes d'alliance peut-être au niveau national, et ensuite qu'est-ce qu'il souhaiterait lui pour la politique du pays ? On sait qu'il avait perdu quand même l'élection présidentielle il y a un an. Aujourd'hui, est-ce qu'il est en meilleure position ?
Oui. Il a une position beaucoup meilleure. Le parti Alliance pour l'Union des Roumains, dont je suis parlementaire, dans les sondages, a presque 35, 38, même plus, 38%. Donc, il est le premier parti, clairement, dans les préférences des Roumains. Et lui, le président de ce parti, Il est beaucoup mieux placé maintenant. Si nous avons des élections maintenant, les élections, des élections
législatives,
en avance, nous aurions 40%. Ouais. Donc, nous serions le plus grand parti et lui, il aurait beaucoup de chances d'être le président de la Roumanie. Mais malheureusement, les autres partis ne veulent pas des élections en avance parce que ils peuvent perdre beaucoup de votes. Donc,
On sait que dans la dernière élection présidentielle en Roumanie, bien sûr, qu'il y avait une sorte de scandale démocratique avec l'annulation de la première élection et puis aussi les pressions qui avaient été réalisées sur la candidature de Georges Simion par l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui avec ces partis qui refusent de nouvelles élections malgré la motion de censure, est-ce que c'est pas aussi une autre forme de déni démocratique ?
100%. Vous avez raison, Monsieur de Galzin, c'est vrai. Ils ont annulé les élections. C'était une mesure complètement antidémocratique et illégale. On peut clairement dire que c'est un coup d'État qu'ils ont donné. Et la situation présente est le résultat de ces élections annulées. Donc, ils ont refait les élections et le résultat n'a pas reflété la volonté du peuple. Donc, si nous avions maintenant des élections, les gens pourraient élire M. Călin Georgescu, qui était le préféré il y a un an et demi. Călin Georgescu est toujours populaire. Il est vu comme le leader de l'opposition, avec Georges Simion aussi, tous les deux. Donc, un coup d'État n'est jamais une mesure démocratique. Mmh. C'est une mesure illégale, totalitaire. Ils ont donné ce coup d'État avec la participation de la Cour constitutionnelle et des autres institutions. Évidemment que maintenant, on conteste le résultat de ce coup d'État et le président que nous avons est considéré par beaucoup de gens un président qui n'est pas légitime. Mmh. Il manque de la légitimité. Évidemment, le premier ministre qui l'a nommé a été aussi considéré par beaucoup de gens non légitime. Donc, le coup d'État, l'annulation des élections est un précédent complètement négatif, un précédent tragique, on peut dire, pour la démocratie. Et l'exemple a été répété, par exemple, en France avec l'interdiction de Marine Le Pen, le Rassemblement national. Notre parti, disons, est plus ou moins du même côté que le Rassemblement national. Donc, si vous pouvez imaginer un peu la situation, imaginez-vous que le Rassemblement national, qui est très populaire en France, est comparable avec l'Alliance pour l'Union des Roumains. Mmh. Il y a des différences aussi, mais je peux dire que nous ne sommes pas du tout des fascistes, mmh. des extrémistes, et ainsi de suite. Et nous sommes pour l'Union européenne, mais pour une Union européenne qui ne soit pas, qui soit une Europe des nations, comme disait Charles de Gaulle, et pas une Europe centralisée, fédéraliste, comme Madame von der Leyen et sa commission veulent transformer l'Union.
André Diallo, on va devoir s'arrêter ici, mais merci beaucoup. On voit que les conséquences finalement de ces élections annulées l'année dernière en Roumanie se font encore sentir dans le pays. Écoutez, effectivement, on vous réinterrogera sans doute sur cette crise démocratique qui traverse la Roumanie. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Merci à tous, merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. C'est toujours un plaisir pour moi d'animer cette matinale. Et mais cependant, pour pouvoir mieux l'animer, pour pouvoir aussi que vous ayez accès plus au podcast, qu'on puisse développer de nouvelles choses pour vous, nous avons besoin de vos dons.
Oui, nous avons besoin de vos dons pour faire vivre Radio Courtoisie et préserver notre indépendance si chère et si précieuse. Si vous écoutez cette émission, rendez-vous sur soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne en fonction de vos moyens. soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Voilà, et puis vous pouvez aussi adresser vos chèques au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. J'ajoute également que demain ce sera une matinale spéciale remigration, vendredi une matinale spéciale euthanasie, matinale qui ne seront pas en direct, qui seront le meilleur de ce que nous avons produit sur ces sujets ces dernières semaines. Moi de mon côté, je vous dis donc à la semaine prochaine, mardi prochain à 7h pour animer cette matinale.
Voilà, et rapidement je vous rappelle que dans quelques instants vous pourrez suivre au fil des pages de Benoît Mancheron pour le vrai visage de Louis XVIII et de son règne avec Philippe Montillet, historien. À midi, le libre journal des économistes d'Olivier Mérès pour l'infortune du monde musulman est-elle inéluctable avec Fergan Aziari. Et à 17h30, restons courtois avec Arthur de Vatrigan. Aujourd'hui, avec Mathieu Boccoté pour la politique et un regard sur Pasolini pour la culture. 19h30, le libre journal de la résistance française dirigé par Bernard Anthony. Et à 21h30, dans le libre journal des débats de Charles de Meyer, l'actualité de la fraternité Saint-Vincent Ferrier, le nouveau livre du père Blinière, La vie du Christ. Et donc, cher Alexandre, on se retrouve lundi.
Oui, à mardi pour moi, mais à lundi pour tous.
À lundi pour tous.